fait du bien de vous voir de face. D'habitude, je vous vois toujours de dos. aujourd'hui, on va se balader dans le premier chapitre du livre de Daniel. Je me suis arrêtée au premier chapitre parce qu'il y en a 12. Il y a des choses importantes dans ce livre. Et ce n'est pas en quelques minutes aujourd'hui qu'on va pouvoir les raconter et en parler. Daniel fait partie de ces grands prophètes, Jérémie, Ézéchiel ou petits prophètes, plutôt petits. Hein. Il y a Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, qui sont les grands. Puis après, c'est les petits. Ouais. Mais enfin, un petit... 12 chapitres, mais c'était un grand homme, un grand prophète. Je vais lire les premiers versets de chapitre 1 jusqu'au verset 4. La troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Jéhoiakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites, de race royale ou de famille de dignitaires, de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Pour replacer cela dans son contexte, on est en 598 avant Jésus-Christ, et le royaume d'Israël a déjà disparu, et c'est au tour du royaume de Juda de disparaître. Dieu avait averti que si le peuple d'Israël marchait dans des voies qui lui étaient contraires, il y aurait des conséquences, et Dieu a averti par ses prophètes pendant longtemps. Mais Israël a continué dans ses chemins de désobéissance et surtout d'idolâtrie. Donc un jour, le grand roi qu'on connaît, Nebuchadnezzar, hein, on n'en connaît pas beaucoup d'autres, mais celui-là à l'école, on s'en souvient, a marché sur Jérusalem, l'a assiégé, l'a vaincu et a emmené non seulement le roi, mais aussi les objets du temple, des objets sacrés. En fait, le roi de Babylone coupait la tête de l'État d'Israël tant sur le plan du pouvoir temporel que du pouvoir spirituel. Et il est allé mettre ces objets dans son temple à lui. Et dans le fond, c'était la réponse quelque part de Dieu à Israël, voilà, tu es idolâtre, hein, tes objets n'ont pas d'autre meilleure place que dans le lieu d'un autre Dieu. Le roi a emmené avec lui, le roi Nebuchadnezzar a emmené avec lui donc le roi Jéhoiakim, ainsi que des Israélites de race royale, des familles de dignitaires, tous les hauts fonctionnaires. Et en fait, il ne restait dans le peuple que des agriculteurs ou des gens, voilà, pour faire tourner un peu la terre quand même, pour ne pas la laisser complètement vide. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça que des vainqueurs emmènent des vaincus dans sa terre en esclavage. Israël n'était pas emmené pour vivre dans le luxe, mais en esclavage, en fait, des déportés, certainement assignés à résidence. On n'a pas trop de détails là-dessus. Et aussi des jeunes gens, parce que c'est aussi une façon que les ennemis ont de modifier la pensée d'un peuple. Je pense aujourd'hui que M. Poutine a enlevé beaucoup de jeunes Ukrainiens, d'enfants ukrainiens, à leur famille pour les enseigner dans les doctrines qui sont les leurs en Russie et pour diminuer la puissance et la force d'un pays. Et le roi a décidé que parmi ces gens-là, il devait y avoir des jeunes gens qui viennent à son service. Servir le roi dans son palais. Et je pense que là, on peut faire une analogie avec l'appel que Dieu nous adresse à nous, de servir notre roi. Je veux rappeler un des versets que Jésus a dit, Matthieu 20, 26 à 28. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. On a là vraiment la pensée et la personne de Christ qui est venue pour nous servir et qui en retour, si l'Esprit de Christ est en nous, nous appelle aussi à servir et pas à être servi. Dans Jean 12, au verset 26, on peut le mettre. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Quand on a le désir de servir Jésus, alors on le suit, et on le suit là où il est. Et ça, c'est bien souvent difficile dans nos vies. Où est Jésus? On peut le servir des fois à milieu, loin de lui. Et c'est certainement peut-être une prière qu'on peut faire dans notre vie. Seigneur, garde-moi de m'éloigner de toi, parce que si je ne suis pas à côté de toi, comment je pourrais te servir correctement et bien et être dans ce que tu as pour moi. Ces jeunes gens étaient appelés à servir le roi. Alors on nous en donne une description magnifique. Des hommes jeunes, beaux, parfaits, cultivés, de classe sociale élevée. Bon. Et quand on ne correspond pas à ce profil-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que l'échelle des valeurs d'un roi humain et l'échelle des valeurs de notre roi ne sont pas les mêmes, heureusement. Je crois que on pourrait se dire, voilà, c'est que des gens conformes à telle image que Dieu appelle, et moi, je ne correspond pas du tout à cette image-là. Hein? On peut lire dans 1 Pierre 2,9, vous tous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous, au contraire, nous sommes une race élue, un sacerdoce royale. Hein? Donc, quelque part, quand je me dis, mais moi, je ne correspond pas, je n'ai pas le niveau intellectuel, je n'ai pas la formation universitaire d'un tel. Je dis souvent, moi, je suis sans bac plus 3, donc voilà. Mais quelle que soit notre formation, quelle que soit notre parcours, notre vie, aux yeux de Dieu, nous avons tous la même valeur. On parlait au rendez-vous avec la Bible l'autre jour de l'exemple de Paul. Paul qui était un intellectuel, il parlait 5 langues, il avait été au pied de Gamaliel. Et pourtant, dans son service, il fabriquait des tentes. Moi, j'ai trouvé que c'était un superbe exemple de quelqu'un qui a la possibilité entre ses mains. Moi, je dis, il y a l'intelligence intellectuelle, puis il y a l'intelligence des mains. Quoi ?
Non, c'est comme ça.
Bon.
Il y a quelqu'un qui comprendra.
Bon. Voilà, je le dis, mais pour moi, j'admire les gens. Enfin, moi, je ne sais pas faire grand-chose de mes 10 mains à part faire des piqûres. Mais je trouve que c'est extraordinaire d'avoir cette intelligence au bout des 10 doigts, d'avoir des dons créatifs. Moi, je ne sais même pas dessiner 3 traits de crayon. Mais voilà, quelque part, on a chacun reçu un don. Et Dieu les utilise. C'est vrai que là, le roi de Babylone demandait des jeunes qui avaient un profil particulier. On va continuer, on reviendra sur ce sujet-là un petit peu après. Je voudrais juste lire aussi Éphésiens 1, 11, qui va dans ce sens-là. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous avons été tous, sans exception, prédestinés à servir notre roi dans les compétences qui sont les nôtres à chacun. Je crois que ce qui fait la différence, c'est quelque chose qui m'a frappé en relisant ce texte aujourd'hui de Daniel, à l'instar d'ailleurs de Joseph. Je trouve qu'il y a des similitudes avec Joseph. Daniel, tout comme Joseph, on ne leur a pas demandé leur avis. Ils sont emmenés de force. C'était ça ou la mort. Je dirais, nous, on a le privilège avec notre roi d'être libre, de dire oui ou de dire non. On a ce libre arbitre pour répondre. Si je comprends vraiment quel est l'amour de mon Dieu et comment lui, il m'a servi, alors j'ai cette liberté de lui répondre et de lui dire oui. En l'occurrence, Daniel et ses 4 amis-là, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés. Il s'est passé des versets 5 et suivants, on ne va pas tout lire, mais en fait, le roi leur fixa à chacun de chaque jour une portion de mets des tables, de la table du roi. Alors on peut se dire, pourquoi cet événement? Pourquoi le roi veut leur donner à manger les meilleurs des mets? Et en fait, on se rend bien compte qu'au-delà de ces magnifiques repas qu'il devait y avoir à la table du roi et d'une nourriture de première qualité, les 4 jeunes hommes, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, ont dû être tentés. Parce que il y avait dans la loi de l'Éternel des règlements au niveau de la, des lois, au niveau de la nourriture. Et en fait, voilà, ils sont introduits obligatoirement dans ce service, et voilà qu'ils sont tentés, dans le fond, sur des choses toutes simples et humaines, sur la nourriture. Et là, il a fallu faire des choix. Et à cette époque, un choix de travers coûtait la vie. Je regarde des trucs coréens, chinois, avec des empereurs, et tout le monde est toujours là. Oh, je vais mourir dès qu'il y a un truc de travers. Je me dis, mais ouf, heureusement qu'on ne vit plus, vraiment. Mais ça doit exister encore. Mais enfin, c'est assez terrifiant, quoi. La moindre erreur était l'opportunité pour être décapité. Enfin, c'était terrifiant. Et là, on se rend bien compte que ça devait être pareil. Hein. Toi, c'est bon, toi, pouf, voilà. La vie n'avait pas de valeur comme on peut l'avoir aujourd'hui. Alors, je crois que là, Daniel et ses amis ont été mis à l'épreuve dans cette tentation. Ils ont été obligés et ils ont fait le choix d'être fermes dans leur foi. On se rend compte que bien que jeunes, ils avaient été enseignés dans la loi. Ils étaient d'une famille noble, donc ils avaient dû certainement suivre tous les cours de la Torah. Mais au-delà de la connaissance intellectuelle des pensées et de la volonté de Dieu, là, ils ont fait des choix qui leur coûtaient et qui leur coûteraient peut-être leur vie. Et je crois qu'ils ont démontré leur foi parce que, voilà, ils étaient du peuple d'Israël, mais il y a un moment où il faut concrétiser. Hein, on ne peut pas « montre-moi ta foi, mais montre-moi tes œuvres pour que je sache quelle est ta foi ». Une foi juste intellectuelle sans preuve, pour le Seigneur, n'a pas de validité. Et là, ils ont eu de la sagesse, quelque part, pour contourner ce règlement du roi. Mais à quel prix, puisque les eunuques qui devaient s'occuper d'eux ont fait le choix de les suivre, mais au prix de leur propre vie aussi. Donc ça a été rude pour eux de faire ce choix-là. Donc ils se sont dit, on se donne 10 jours. Si dans 10 jours, vous êtes complètement amaigri, bon, il n'y aura pas à lésiner, moi j'ai pas le choix, vous devrez manger, ou alors vous serez tués et moi avec. Donc voilà, et au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine que tous les autres, et donc l'eunuque en chef était tout content, parce qu'il s'est dit, ben voilà, on va continuer comme ça. Et je me dis, ça a été certainement aussi le premier témoignage de ces 4 jeunes gens, pour toute l'équipe des eunuques qui devait s'occuper d'eux, pour se dire, waouh, ouais, ce Dieu-là, c'est du vivant, ça marche, hein, on peut lui faire confiance et le suivre. Donc, je trouve beau aussi ce témoignage qu'ils ont eu auprès des eunuques. Et on va continuer, en fait. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est vrai, c'est que quand on choisit de servir Dieu, eh bien, le Seigneur lui-même nous en a parlé. Il n'y aura pas que des chemins pavés de roses et de choses douces et tendres, des bonnes sucreries du palais du roi. Et il y aura aussi des tribulations, des épreuves. Hein, on pense aussi à Joseph, hein, qui, en ayant été déporté en Égypte aussi, a été tenté sur la route. Pareil, il a tenu bon, mais en tenant bon, ça lui a valu de la prison encore. Donc, il y a un coût au choix de servir Dieu. Moi, je me souviens, après avoir répondu à un appel au service, l'ennemi a cherché vraiment à me détruire. Je me souviens d'un soir dans ma chambre chez mes parents, mais la chambre est devenue complètement noire de ténèbres, j'étais dans le coin comme ça, et puis il y avait l'ennemi qui me disait, mais renie ta foi, renie ta foi. J'ai dit, mais non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas renier ma foi. Et comme je résistais, ben, il a fini par s'en aller. Et puis, le lendemain, il a utilisé la bouche de quelqu'un qui m'était cher pour me dire, mais renie ta foi, renie ta foi. J'ai dit, mais non, je ne veux pas renier ma foi. Et dans la semaine, c'était quelqu'un d'autre qui me disait, mais si tu ne renies pas ta foi, je me suicide. Je dis, mais non. Mais voilà, il a fallu... Ouais, ça a été costaud quand même, parce que je me suis dit, quand même, elle ne va pas se suicider pour que je renie ma foi. Mais bon, voilà, il y avait... Enfin, c'était le prix à payer pour avoir dit oui. On va lire le verset 17, hein, chapitre 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alors, j'ai oublié de vous dire, je ne vois plus où c'est. En fait, le roi avait demandé qu'il soit formé pendant 3 ans. 3 ans de formation avant de se présenter devant le roi. 3 ans pour apprendre à servir, pour apprendre à connaître la culture des Babyloniens, l'histoire, la philosophie, les sciences. 3 ans pour, voilà, non seulement découvrir tout cela, mais peut-être aussi, comme on dirait aujourd'hui, pour reprogrammer leur culture et leurs connaissances et leurs choix. Et en fait, ces jeunes gens avaient grandi dans une culture religieuse d'Israël. Là, ils découvraient la culture que l'on pourrait dire du monde. Nous aussi, nous grandissons avec la culture du monde et le Seigneur nous dit que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Néanmoins, je crois qu'il y a des bonnes choses dans le monde. Je crois qu'on peut... Voilà, je trouve que la science nous a apporté beaucoup de choses. La médecine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu tout ce cheminement de la science, que ce soit en psychologie, que ce soit dans plein de domaines. Je crois qu'on a découvert, en tout cas on a mis des mots sur des pensées qui venaient de Dieu lui-même. Maintenant, effectivement, il y a des choses que l'on ne peut pas admettre, qu'on ne peut pas en tout cas faire nôtre, et avec lesquelles il faut trancher d'une manière très claire. Et pendant ces 3 années, ils se sont formés, ils ont continué à manger des légumes, certainement sans perdre de poids. Ils ont continué à se former tout en continuant à demeurer ferme, vraiment dans leur détermination. Et je crois que ça a été aussi un témoignage pour les gens qui étaient autour. On se rend compte qu'ils se sont formés dans des choses qui sont du monde et qui entraient dans un plan et un projet de Dieu pour leur vie. Alors, je me dis, nous, on a fait l'inverse. On a d'abord été enseignés dans les choses du monde, de notre pays, Y a-t-il besoin d'être enseigné dans les choses de Dieu? Certainement. Et certainement de faire des formations en continu, hein, si on peut s'offrir ce genre de choses. Hein. Tout cela pour répondre au service du roi. Alors on peut dire, mais ça c'était pour Daniel et pour ses amis, mais voilà, est-ce que moi je suis appelée à servir le roi? On va lire Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. 3 points de suspension. Alors aujourd'hui, je voudrais être très concrète. Est-ce que c'est quelque chose que tu crois? C'est une question sérieuse. Est-ce que tu crois que dès avant ta naissance, Dieu avait un plan et un projet pour ta vie? Au même titre que Jérémie. Et je crois que c'est important d'être honnête avec soi-même, de mettre son nom à cet endroit-là. Ce n'est pas Jérémie, c'est Francine, Jean-Marc, Juliette, chacun. Hein? Est-ce que tu crois que dès avant ta naissance, Dieu avait un plan et un projet pour ta vie? Et on se rend compte que pour Daniel et ses amis, ils avaient les dons naturels. Certes, pour eux, ils venaient d'un milieu social élevé, donc ils avaient reçu un bagage. Moi, je viens d'un milieu ouvrier. Est-ce pour autant que je ne suis pas digne de servir Dieu ? Je crois qu'à chacun d'entre nous, Dieu a donné des dons naturels, au moins un. Alors, on va s'arrêter aujourd'hui. J'ai fait ça au rendez-vous avec la Bible l'autre jour. J'ai dit, toi, quel est ton don? Toi, quel est ton don? Ah, c'est embêtant, hein? On est 30, on ne va pas faire 30 réponses. Néanmoins, je voudrais que vous jouiez le jeu. Quel est ton don? Au moins un mot. Si on a plusieurs, tant mieux. Au moins un mot. Si on pense à un tel, on lui dit, ah, un tel. Voilà, je vois qu'elle est bien dans ce domaine, dans cette activité. Elle est à l'aise. Est-ce que vous avez pu mettre au moins un mot? Voire plusieurs. Dieu nous a donné à tous au moins un don naturel dont nous avons la responsabilité non seulement de le développer, de l'étayer, mais est-ce que je l'ai donné à Dieu? Est-ce que mon pain et mon poisson, je l'ai donné à Dieu? C'est important. Dans Romains au chapitre 12 et au verset 1, il est dit, « Je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » On voyait que le roi là, de Babylone demandait à ce que la nourriture soit saine et bonne pour ces jeunes gens. Je crois que Dieu ne fait pas exclusion de notre corps. On peut donner ses pensées, peut donner un petit bout de son cœur, mais dire à Dieu, prends tout, prends aussi mon corps, et fais-en ce que toi tu veux, c'est un culte raisonnable. Lui, il a tout donné. Il n'est pas juste mort dans sa tête à la croix. Il n'a pas dit, oui, je veux y aller, puis rester au pied de la croix, non. Il a donné son corps aussi en sacrifice. Il a tout donné. Alors, je crois que Dieu nous a donné des dons naturels pour que nous nous mettions tout entiers au service du roi. Mais à l'inverse de Daniel ou de Joseph, nous avons la liberté de répondre. Eux, ils étaient contraints. Et puis, on lit aussi, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Daniel non seulement avait reçu un équipement naturel, des dons naturels, mais il a aussi reçu des dons surnaturels. L'Esprit Saint était avec lui et l'a équipé de dons qui allaient être absolument adaptés au projet de Dieu. Le projet de Dieu pour Daniel, c'était effectivement de servir les rois. Je dis les rois parce qu'il a été au service de 4 rois successifs. Il a été le premier ministre de Nabucodonosor, c'est quand même pas rien. Et il avait besoin de ses dons, à la fois, quels étaient ses dons, on peut dire, la parole de sagesse, un don éminemment important, la parole de connaissance, des dons de révélation. Quand le roi a dit, mais j'ai rêvé, mais je me souviens plus ce que j'ai rêvé, mais je suis mal avec ça. Les dons d'interpréter. Et pour finir, il a eu un grand don prophétique majeur. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais pourquoi Dieu a donné à Daniel la vision de ce qui allait se passer des décennies, des siècles après? Ça sert à quoi? C'est vrai, ça sert à quoi? Et en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on les retrouve et que l'apôtre Jean a aussi reçu des révélations et que les deux, à des siècles de différence, ont prophétisé les mêmes choses, à la fois pour leur époque et les cent ans qui venaient, mais aussi pour la fin des temps. Donc, je crois que là, on se dit, Dieu a un plan pour notre vie. Est-ce que je veux entrer dans ce plan avec les dons naturels que Dieu m'a donnés? Je dis les, parce que je suis convaincue qu'il n'y en a pas qu'un seul. Hein? Tout le monde a des richesses et des dons spirituels pour sceller cet appel, pour sceller cette puissance et pour être témoin. En fait, Daniel, systématiquement, les rois disaient sa sagesse et sa connaissance et ses dons surnaturels qu'il a sont bien plus importants que tous les magiciens et les voyants que je peux connaître. Hein? Et qui sait qui pourrait... Le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de voyants aujourd'hui, tellement d'occultisme, que nous avons besoin de ces dons pour confondre aussi, mais surtout pour être témoins, puisque tous ces rois, en fait, systématiquement étaient confrontés à la puissance de Dieu. Et quelque part, je me dis, nos rois à l'heure actuelle, je crois que Dieu ne les abandonne pas plus que Nabucodonosor. Je suis convaincue que si Dieu parle aux tout petits, il parle aussi aux tout grands. Et il les confronte. Moi, ça m'a fait un bien fou de relire ça. Et je me dis, mais Seigneur, on croit que nos dirigeants sont entre guillemets, largués, tout seuls, perdus. Oui, ils doivent voir des voyants, oui, ils doivent avoir plein de consultants en tout genre, mais je suis convaincue, parce que quand on voit tous ces rois, petit à petit, ont tous été confrontés à la puissance de Dieu. Mais pour ça, il a fallu qu'un homme s'engage fidèlement, fermement dans sa foi, tout en servant Dieu dans un monde qui n'était pas le sien, dans un pays qui n'était pas le sien. Mais il a été témoin devant les puissances, et même à la fin de sa vie, parce que Daniel a servi ses rois pendant plus de 50 ans. Ça a été toute sa vie qu'il a servi. Je ne sais pas où il est mort, s'il est mort à Babylone ou s'il a pu rentrer avec ceux qui sont rentrés après Cyrus. Mais en tout cas, voilà, tout au long de sa vie, il a servi d'abord son roi à lui. Il lui est resté fidèle jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et il y a eu un crescendo de son service, parce que voilà, annoncer des choses là aussi au roi de l'époque, c'était pas facile. Hein. Et les derniers temps, c'était Dieu lui-même qui lui annonçait l'avenir, et ça a été très dur. Il est dit que pour ce qui est des paroles au sujet de du peuple d'Israël, Dieu lui a dit pendant 3 semaines, la puissance qui s'oppose, la puissance de Perse, m'a empêché de venir te répondre. Ça a été un combat spirituel terrible. Et en fait, les paroles qu'il a reçues, on le lit bien, ça a été bouleversant pour lui. Mais voilà, au fil des années, Dieu lui avait donné la force pour pouvoir porter de telles paroles, un tel service, ce crescendo dans son ministère. Alors voilà, c'était quelques pensées sur le livre, tout simplement sur le premier chapitre de Daniel, ce que l'on peut en tirer du témoignage de ce jeune homme qui, malgré lui, a été emmené dans un chemin qu'il n'aurait certainement pas choisi lui-même, mais qui était le plan de Dieu pour sa vie, pour les nations, pour être témoin dans son temps. Dieu nous appelle aussi à être témoin dans notre temps, là où il nous a placés, avec nos dons naturels, notre éducation, notre rang social, notre profession, notre vie de famille. Toutes ces choses-là sont dans les mains de Dieu. Et il n'y a pas de haut, de bas, de petit, je ne suis rien. Je dis souvent, on dit, l'orgueil est un péché. Ah oui, moi je suis grand, je suis quelqu'un. Mais on ne dit jamais que de se dévaloriser est un péché. Et pourtant. Mais oui. Parce que je crois que le miroir dans lequel il veut que nous nous regardions, c'est celui de Jésus. C'est dans le cœur et les yeux de Jésus. Et avoir de l'orgueil sur qui je suis, mais aussi me dévaloriser, je ne suis rien, je ne peux rien, je suis le dernier. Hein ? On connaît toute cette musique-là. C'est aussi du péché. Et je crois qu'en offense, on rend Dieu triste. Parce que lui, il a un plan, il a un projet pour ma vie. Il m'a créé de toute éternité, j'étais dans sa pensée. Il m'a donné des dons, même si je ne veux pas les voir. Ils sont là, hein. Et des dons spirituels, si je le souhaite, il faut les lui demander, parce que c'est important. Alors, que nous puissions continuer notre route. Je voulais aussi dire, il n'y a pas d'âge. Il est question là de jeunes gens. Et puis nous, on se dit, on a les cheveux blancs, c'est trop tard, là aussi. Moi, je dis toujours, la parabole que Jésus nous a donnée des ouvriers de la première heure et des ouvriers de la dernière heure. Le salaire était le même. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ni en étant jeune, ni en étant moins jeune. Hein? Il n'y a pas d'excuse. Et même si on s'est trompé, on a pris le train tardivement. Moi, je dis, celui qui a donné l'intelligence à des individus pour construire des GPS, eh ben, il est tout aussi important pour nous parce que Dieu est le meilleur GPS. Quand on se trompe de route, notre GPS réactualise. Tu passes par là, 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 hop, puis tu retrouves la route que j'avais prévue pour toi, pour aller à l'objectif final. Et moi, je voudrais vous témoigner que dire un oui total à Dieu pour entrer dans ses plans, dans son plan, c'est la plus belle chose qu'on puisse vivre. Parce que quand on arrive à notre âge, on regarde dans le rétroviseur, eh ben, on est en paix. Et ça n'a pas de prix. Même si on est fatigué, qu'on a mal à la tête, hein, ça n'a pas de prix. Donc voilà, que Dieu nous bénisse, vous bénisse. J'espère que vous aurez l'opportunité d'être, que nous aurons l'opportunité d'être des Daniel. On en a besoin, Dieu en a besoin, dans notre monde aujourd'hui, qui tiennent la route fermement dans leurs convictions et dans cette marche. Amen.